Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Eau de Radio. Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Et nous sommes présents, toute la rédaction des informations locales et culturelles est présente comme chaque jour du lundi au vendredi. Midi pour le direct, 15h et 18h pour les rediffusions. 91.3 FM pour nous suivre dans toute la Gironde et grâce au DAB+, dans toute la métropole bordelaise. Vous pouvez également nous suivre via notre site www.eauderadio.fr partout sur le globe avec des infos complémentaires à notre journal, les reportages de la rédaction et c'est sur notre site que vous pouvez retrouver les replays de toutes nos émissions. Pour ouvrir ce journal d'informations locales et culturelles en ce mardi 17 février 2026, c'est Chloé qui va nous décliner un flash info dans un instant. Mais exceptionnellement, pas d'invité en direct dans notre studio aujourd'hui, mais nous allons retrouver un entretien d'actualité sur la vigilance rouge pour le phénomène de crue en Gironde. Entretien réalisé par Michael Ballanger pour RIG, une radio amie et partenaire que l'on salue. L'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez retrouver tous les mercredis à partir de 10h30 l'émission Parlons Nature, réalisée par Michael et co-diffusé sur RIG et Eau de Radio. Le magazine hebdomadaire du mardi 12h30, les jeunes reporters européens, réalisé en partenariat avec la MEBA, la maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, sera à retrouver la semaine prochaine, car les ambassadeurs des valeurs éco-citoyennes et européennes sont en vacances bien méritées. Mais pour ouvrir ce journal de ce mardi 17 février 2026, on commence tout de suite avec le flash info de Chloé. Bonjour Chloé.
Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Commençons ces brefs par la ville de Bassens. Les 21 et 22 février, au gymnase Séguinot, aura lieu la 39e édition du Challenge National de Futsal Patrick Hérault. Composé d'un tournoi U9, U11 et U13, l'entrée sera gratuite pour tous, joueurs comme spectateurs. Une occasion pour les jeunes talents de montrer leur niveau au plus grand nombre. Le vendredi 20 février, à l'espace culturel du Bois Fleuri de Lormont, la compagnie 22h22 jouera son spectacle Gratte-Gratte de 14h30 à 15h30. Les sujets de l'addiction ou encore de la vie en ruralité seront abordés sans détour. Une réservation est nécessaire, mais l'entrée est gratuite à partir de 12 ans. Réservée sur billetterie.lormont.fr. Le lundi 23 février, de 9h30 à 11h30, un atelier numérique se déroulera à la médiathèque M270 de Floirac. Ouvert à tout le monde, gratuitement et sans inscription, l'objectif est d'aider le public à se familiariser avec cet outil parfois peu intuitif. Plusieurs autres ateliers auront lieu jusqu'au vendredi 13 mars. Le mardi 24 février, à la salle Mendes France de Bassens, aura lieu un petit déjeuner éducatif. Excusez-moi, de 10h à 12h, les bassonnets et bassonnaises majeurs pourront s'y rendre et en apprendre plus sur la seconde main, en partenariat avec Renaître. Les ressourceries et recycleries de la rive droite y seront présentées et ce sera l'occasion de créer du lien. L'entrée est gratuite et sans inscription. Pour conclure, le samedi 21 février à 20h30, le Rocher de Palmer accueillera en concert le groupe LEJ, le trio féminin révélé par son mash-up Summer en 2015, puis récompensé d'une victoire de la musique en 2017, continue son chemin dans le monde de la musique. Elles entament une tournée vers un dernier album, S'aimer est une galère, et feront leur deuxième date dans la ville de ce nom.
Allez, merci Chloé pour ce flash info. Tout de suite, nous allons retrouver ce numéro spécial très actuel de l'émission Parlons Nature, car suite au passage de la tempête Niels, nous allons parler intempéries. La Gironde reste en vigilance rouge pour le phénomène de crue. Lors de son déplacement ce week-end, le préfet de région a expliqué que la situation allait prendre du temps à s'améliorer. Nous allons tenter de comprendre ces inondations, quels facteurs en sont à l'origine. Dérèglement climatique ou simple phénomène météo, nous en parlerons avec notre intervenant du jour, Éric Vessy, hydrologue, docteur en biogéochimie, directeur de Terre et Océan et médiateur culturel fleuve eau climat. Tout va être détaillé dans cet entretien spécial réalisé par Michael Ballanger que nous écoutons tout de suite.
Environnement, faune, flore, développement durable, parlons nature.
Bonjour à toutes et à tous, nouvelle édition de votre magazine hebdomadaire Parlons Nature. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler intempéries. La Gironde reste en vigilance rouge pour le phénomène de crue. Lors de son déplacement ce week-end, le préfet de région a expliqué que la situation allait prendre du temps à s'améliorer. Nous allons tenter de comprendre ces inondations, quels facteurs en sont à l'origine, dérèglements climatiques ou simples phénomènes météo. Nous en parlerons avec notre intervenant du jour.
Parlons Nature.
Nous sommes avec Éric Vessy. Bonjour Monsieur Vessy.
Bonjour, merci de cette invitation.
Merci à vous d'avoir accepté l'invitation au pouce, si je puis dire, au pied levé, puisqu'on vous a contacté ce matin, justement pour parler de la situation hydrologique qu'on connaît à l'heure actuelle. Vous êtes donc, je vais juste le préciser, docteur en biogéochimie, directeur de Terre et Océan et médiateur culturel fleuve au climat. Et aujourd'hui, bah justement, on va essayer de comprendre avec vous ce qui se passe, la situation hydrologique en Gironde. Alors, on pourrait être tenté de dire que tout débute avec la tempête Niels, mais je pense qu'il faut peut-être remonter un petit peu plus loin pour comprendre le mécanisme qui a mené à ces inondations, non ?
Oui, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a la tempête elle-même, le phénomène atmosphérique avec des vents violents qu'on a connus ces derniers jours. Et puis, il y a surtout les précipitations sur une durée assez longue. Alors, c'est des choses relativement classiques en hiver, même si ces dernières années ou même ces dernières décennies, on avait un peu oublié ça parce qu'on était sur un déficit global hydrologique de la Garonne de l'ordre de 20%, enfin, si on prend en moyenne annuelle, entre les années du XXe siècle jusqu'aux années 80-90 et les 30 dernières années. Donc, c'est vrai qu'on a eu des hivers avec des précipitations faibles ces derniers temps. Mais là, pour le coup, c'est des précipitations intense et sur une durée particulièrement longue, en tous les cas longue par rapport aux dernières années. Donc, ce qui fait que on a atteint le 14 précisément, donc je crois que c'était avant-hier, 6232 mètres cubes secondes à Tonneins, ce qui est beaucoup parce que une crue normale annuelle c'est de l'ordre de 2000-3000 mètres cubes secondes. Là, on est deux fois au-delà de la crue annuelle.
Alors effectivement, j'ai cru comprendre. Oui, j'ai cru comprendre qu'on avait même, on avait donc dépassé les niveaux de 2021, qui étaient déjà des crues assez importantes.
Oui, on arrive à une crue. Alors c'est toujours difficile de parler de période de retour, mais on parle de crue décennale, même un petit peu plus. C'est un petit peu au-delà de la crue décennale, même si la période de retour de 10 ans ou de 20 ans, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais on n'est pas dans les crues exceptionnelles historiques comme on en a vu. Par exemple au 19e siècle en 1875, auparavant en 1770, ou plus près de nous, les plus grandes crues qu'on ait vues au 20e siècle, c'est 1930 et puis 1981, la plus proche de nous. Où là, on n'a pas de chiffres réels, parce qu'une fois que ça déborde, c'est difficile de mesurer des débits, mais on était peut-être de l'ordre de 9000, 10000 mètres cubes secondes. Là, on est à 6000, on dépasse 6000, 6200. Et c'est déjà beaucoup par rapport à ce qu'on a connu, y compris en 2021.
Alors revenons un petit peu sur les mécanismes qui ont amené à ça, donc les précipitations, des précipitations qui durent depuis des semaines, et sur ces précipitations, bah, une tempête qui vient en plus, c'est l'adjonction de ces phénomènes qui fait que, bah, au bout d'un moment, tout déborde.
L'inondation de la Garonne, en amont, c'est vraiment la précipitation. La tempête amène des flux d'eau supplémentaires, mais au final, ça fait des précipitations. La tempête peut avoir un effet sur la partie estuarienne, avec des vents et qui génèrent des vagues et des surcotes exceptionnelles. Cela dit, on s'en sort bien dans la partie aval, parce que le maximum de la crue qui est arrivée donc le 13, 14, 15 février, en fait, correspond à des très petits coefficients de débit à ce moment-là. Et sur Bordeaux et sur l'agglomération bordelaise et autour, et puis à Naval, mais en fait, ce qui joue le plus sur la surcote, c'est d'une part, effectivement, la crue de la Garonne, mais surtout les coefficients de marée. Et quand on est à marée haute, à ce moment-là, ça rajoute quelques centimètres de plus.
Alors, puisqu'on parle des précipitations, donc des précipitations qui durent, hein, depuis plusieurs semaines, on l'a dit, qui continuent encore et qui vont continuer toute la semaine avec divers niveaux d'intensité. On a relevé, juste pour le mois de janvier, 150 mm à Bordeaux, jusqu'à 200 mm à La Cano. Globalement, est-ce que c'est l'œuvre du dérèglement climatique ou c'est simplement une coïncidence météorologique ?
Alors nous, il faut voir qu'on est alimenté en pluie par, on a des océans, enfin l'océan Atlantique évidemment pas loin, donc c'est l'évaporation de l'océan Atlantique qui est amenée par les courants d'air atmosphérique et qui vont après se heurter aux barrières montagneuses des Pyrénées et du Massif Central. Ça, c'est les crues classiques d'hiver comme on est en train de le vivre en fait, avec la tempête qui a rajouté des flux atmosphériques humides et donc de précipitations aussi. Mais on est sur des niveaux de précipitations hivernales comme on en a connu au XXe siècle, mais on en connaît un petit peu moins ces derniers temps. Mais voilà, donc on est sur un excédent particulier.
On a perdu la mémoire de ces...
Comment ?
Je dis, on a perdu la mémoire de ces événements peut-être.
Alors, on a perdu un peu la mémoire, mais encore une fois, on est sur un événement exceptionnel. On est à 6000 mètres cubes secondes, c'est vraiment, dès qu'on dépasse 5000, il y a une inondation sur une partie du bassin versant. Et là, en plus, on a une crue globale qui vient à la fois des Pyrénées, du cœur du bassin entre Toulouse et Bordeaux, et puis du Massif Central également. Donc, tout le monde participe à ce flux d'eau important. Mais pour revenir aux typologies des crues, on a trois types de crues en général dans la Garonne. sur le bassin de la Garonne. On a les crues classiques hivernales qui viennent de l'océan Atlantique. On a les crues, alors qui sont celles qui sont hivernales sont des crues qui sont générées par des pluies sur une longue durée, comme on est en train de voir en ce moment avec une intensité particulièrement haute. Les crues après, c'est les crues printanières qui vont arriver de façon un petit peu plus pulsée parce qu'elles vont amener de l'eau également de l'océan Atlantique, mais elles vont être accrues par la fonte des neiges au printemps. Et ça, on en a connu au 19e siècle des particulièrement graves et importantes. Et puis, il y a le troisième type de crue qui est plutôt d'automne et de fin d'été, d'automne, de début d'hiver, qui sont les crues méditerranéennes, où là, il y a un flux d'air atmosphérique très humide qui provient du sud et de la Méditerranée, après la surchauffe estivale.
Alors, justement, vous parlez des océans, de la mer Méditerranée, vous avez évoqué même le terme de surchauffe estivale. Est-ce que c'est ce réchauffement des océans, tel qu'on en parle à l'heure actuelle, participe à ce type d'événement?
Alors, ça peut participer, même si des crues, il y en a toujours eu, des crues exceptionnelles, il y en a eu. Je vous ai cité quelques dates, 1770, 1875, 1930, 1952, 1981, par exemple, pour citer quelques-unes, qui ont marqué, si vous allez sur des échelles de crues, par exemple à Cadillac, et là, je pense que l'eau est arrivée jusqu'à l'échelle de crue, mais cette échelle de crue, elle monte très très haut en atteignant le cœur de la ville. Donc, on a toujours eu ce genre d'événement. Aujourd'hui, le réchauffement atmosphérique, ça inclut évidemment un réchauffement de surface des océans. Alors ça donne une légère dilatation thermique aussi qui donne une élévation du niveau marin qui commence à se voir un petit peu dans la zone estuaire et jusque dans Bordeaux et Bordeaux Métropole. Mais en plus, donc, ça fait une évaporation potentielle supplémentaire. Et donc, on la formule en général, on dit 1 degré de plus au niveau réchauffement global. C'est 7% d'eau de plus dans l'atmosphère. Donc, c'est 7% d'évaporation en plus. Sachant que le cycle de l'eau, c'est 10 jours. C'est-à-dire que l'eau qui est dans l'atmosphère aujourd'hui, dans 10 jours, elle aura été renouvelée à 100%. Et donc, c'est 7% de plus, et plus le reste, évidemment, tombe quelque part dans les 10 jours de renouvellement. Bon, l'essentiel de l'eau retombe dans les océans, mais quand ça tombe sur les continents, ça fait des surplus potentiels. Voilà. Après, peut-on tout attribuer au réchauffement climatique là-dessus en termes de précipitations? Non, mais le réchauffement donne des conditions qui sont plus favorables, et le dernier rapport du GIEC le montre bien, à ces événements forts.
Très
de
bien.
Précipitations.
On va revenir dans quelques instants sur ce cycle de l'eau dont vous avez parlé, puisqu'on va parler un petit peu des fleuves, de leurs affluents, comment tout cela fonctionne sur la Gironde et sur la Nouvelle-Aquitaine. On parlera également des nappes phréatiques. Restez avec nous, on en parle dans un instant, tout de suite après une pause musicale.
Je vois la lumière au bout du tunnel. Je cours après tous les soirs. Je pensais que la nuit était plus belle, que je n'avais pas peur du noir. Mais ouh, je vais pas mieux que vous. Le silence atténue mes averses, mais ne calme pas l'orage. Le bruit de la foule me traverse. Je n'aurai plus jamais mal. Mais ouh, je vais pas mieux que vous. Je veux dans leur visage là, que moi je rêve de leur là. Je veux dans leur. J'ai laissé l'amour dans le tunnel, mais j'aimais tous les soirs à croire que le temps est éternel. Est-ce que j'ai le temps d'y croire? Mais ouh, je vaux pas mieux que vous. J'ai fait les 100 pas, ça m'a lassé. J'ai changé de sens, j'ai vu de l'or. Mais ouh, ça m'a lassé, puis j'ai changé de sens. J'ai vu de l'or avancer sans voir, me rapprocher jusqu'à perdre la distance, perdre le nord. Après tous les soirs, on sait que le temps est éternel. Tu connais déjà l'histoire, mais je vais pas mieux que vous.
Parlons nature se poursuit aujourd'hui. Eh bien, nous revenons sur ce phénomène que nous connaissons à l'heure actuelle dans notre région, phénomène de crue. Alors, on a appris ce lundi que les niveaux de la Garonne et ses affluents ont dépassé ce 2021. On en parlait dans la première partie avec des flux relativement rapides et importants de fleuves. Alors, on va essayer de voir et de comprendre un petit peu comment fonctionne l'hydrologie avec notre invité du jour, donc Éric Vessy, je le rappelle, docteur en biogéochimie, directeur de Terre et Océan et médiateur culturel fleuve au climat. Monsieur Vessy, ces fleuves, comment est-ce qu'ils fonctionnent? D'où vient l'eau qui alimente ces fleuves? Et comment ces crues peuvent-elles survenir avec ces eaux qui arrivent de différents endroits?
Alors oui, de l'eau dans un fleuve, on comprend bien quand il pleut qu'il y ait de l'eau dans un fleuve parce qu'il y a le ruissellement et donc ça suit les lignes de bassin versant, les lignes de pente, et ça arrive à la rivière qui est en bas évidemment, et puis au fleuve qui rassemble toutes les rivières. L'eau dans une rivière, quand une rivière est permanente, c'est qu'elle est aussi alimentée par des nappes phréatiques, des résurgences d'eau plus profondes qui ont été elles-mêmes le fruit d'infiltration lorsqu'il a plu à un moment donné. Donc voilà, on a ce cumul. La base de l'hydrologie, c'est les nappes d'accompagnement, les nappes, les résurgences, les nappes phréatiques qui sont autour, les nappes alluviales comme on les appelle, qui sont autour d'une rivière. Et après, le reste, quand il pleut beaucoup, évidemment, une partie s'infiltre, mais va quand même va ruisseler une partie en surface de sol et puis une partie à l'intérieur des sols, dans les pentes, et qui vont, ce qu'on appelle l'écoulement hypodermique, en dessous de la peau, en fait, de la terre, donc de la surface. Et tout ça, ça va se rassembler dans le fleuve, et ça va faire monter la côte du fleuve. Et en ce moment, on est sur une légère décrue, là, c'est depuis hier seulement. Donc, on a un peu moins de ruissellement, mais on a encore cet écoulement à travers les sols qui va accompagner l'écoulement global et donc qui fait que le niveau se maintient très fort parce que les sols sont engorgés d'eau.
Voilà, alors c'est là où c'était ma prochaine question. Justement, on entend beaucoup dans les médias que les sols sont gorgés d'eau à l'heure actuelle. Ça veut dire que l'eau ne peut plus aller nulle part?
Les nappes phréatiques, c'est comme un récipient qu'on remplit, même s'il y a un écoulement qui va se faire avec justement le long des pentes qui sont en sous-sol. Mais à un moment donné, donc quand on remplit les sols entre guillemets, la nappe elle peut être affleurante carrément à la surface des sols et donc elle peut dépasser même et créer une espèce de petit marécage local. Donc effectivement, des sols qui sont gorgés d'eau, au bout d'un moment, ils ont plus la capacité d'absorber et donc ça ruisselle encore plus. Et donc, ça alimente encore plus les rivières.
Alors, justement, dans le phénomène qu'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'il y a ce phénomène de nappe affleurante?
Alors, les nappes sont bien remplies. Alors, l'autre problématique, même si c'est un peu moins le cas sur ce phénomène-là, mais quand on a des pluies intenses sur une période de temps courte, le sol n'a pas le temps d'absorber. Donc, quand il y a de la pente, ça suit la pente et le ruissellement alimente les rivières. Là, on est sur un phénomène un peu plus long. Mais encore une fois, une partie des sols n'ont plus la capacité d'ingurgiter cette eau-là et de la faire pénétrer plus à l'intérieur des sols, plus profondément dans les sols, et donc ça ruisselle. Mais de toute façon, à travers les sols, encore une fois, ça suit une pente qui va jusqu'à la rivière.
D'accord.
Quand on est par exemple en période d'étiage l'été, quand vous avez une rivière où il y a peu d'eau, il y a un filet d'eau, en fait, il faut se dire que le filet d'eau est au niveau de la nappe qui l'accompagne. Et en fait, quand on monte cette nappe autour, on monte aussi le filet d'eau qui devient plus torrentielle et plus de plus haut niveau.
Alors, ce week-end, le préfet était en déplacement à Langon et La Réole, actuellement inondée. Le préfet a évoqué le fait que ça allait durer, parce qu'on avait encore des intempéries à venir et que la décrue allait être relativement lente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène de décrue qui va être lent finalement?
Il faut évacuer toute cette eau et elle s'évacue après par la partie aval du bassin versant. Et la partie aval du bassin versant, c'est l'estuaire, donc avec ce phénomène de marée qui bloque, on connaît bien à Bordeaux évidemment, dans toute la zone bordelaise et même jusqu'à La Réole à peu près dans la partie Garonne amont. Donc ce phénomène de blocage de l'écoulement, et c'est vrai que, comme je disais, là les prochains jours, le phénomène qui va aussi provoquer un risque supplémentaire sur la métropole et sur la zone estuaire, c'est que les coefficients de marée montent.
Oui, on est sur des forts coefficients.
Je crois que c'est 97. Voilà, on est à 77, je crois, aujourd'hui, et à 97 vendredi et jeudi et vendredi. Donc là, ça veut dire que au moment de la marée qui monte, on va avoir un blocage de l'écoulement de l'eau plus important, et donc ça va prendre un peu plus de temps à s'écouler vers l'océan. Et le risque supplémentaire, c'est que si on a des pluies complémentaires là qui arrivent là dans les 2-3 jours qui viennent et que la Garonne reste ou remonte, même elle est à un peu moins de 5000 là aujourd'hui, mais si ça remonte d'un cran, même si ça reste à 4000, plus un gros coefficient de marée pour la zone bordelaise, ça va être, on le voit ces derniers temps, ces dernières années, on voit que dès qu'on est sur un coefficient fort et qu'on a un peu d'eau dans la Garonne, eh bien on est à la limite des quais à Bordeaux, voire même ça passe par-dessus au moment de la marée haute. Et vous savez que le PPRI, c'est-à-dire le plan de prévention des risques d'inondation sur Bordeaux, est calculé par rapport à un triple phénomène. C'est beaucoup d'eau dans la Garonne. C'est 7000 et quelques pour prévoir les zones les plus à risque. Et un gros coefficient de marée plus un coup de vent.
Et là, cette semaine, encore, on va avoir les trois.
Voilà, s'il y a encore... je pense qu'on n'aura pas une tempête de l'ordre de celle qui vient de passer. Mais voilà, si on a les trois en même temps, il y a un risque de surcote important.
D'accord. Alors, pour terminer, dernière question, et je vais vous libérer parce que je rappelle juste que vous avez accepté vraiment en dernière minute de nous accorder cette interview pour nous expliquer comment fonctionne ce phénomène d'inondation qu'on connaît à l'heure actuelle. Cet épisode que l'on est en train de vivre en Gironde, est-ce que il faut s'attendre à le revoir plus souvent dans les prochaines années, ou est-ce que ça restera un phénomène de hasard météorologique?
Alors, pour ce qui est de la Garonne et de notre sud-ouest, on va dire global, les prévisions plutôt climatiques, et y compris au niveau hydrologique, montreraient plutôt un assèchement global, et notamment des périodes d'étiage plus basses et plus longues. Bon, c'est ce qu'on vit d'ailleurs ces dernières années déjà, mais ça risque de s'accentuer. Après, cela n'empêche pas qu'on ait des événements pulsés avec justement une intensité de pluie donc concentrée sur quelques heures ou quelques jours, alors qu'ils peuvent être globales sur le bassin versant ou plus localisés sur une rivière ou sur quelques rivières, sur un petit secteur, des crues de type cévenol méditerranéenne, comme on dit, donc avec une origine qui peut être mixte entre l'océan Atlantique et voire même des influences méditerranéennes. Donc voilà, globalement, ce n'est pas exclu. Le réchauffement climatique, c'est, disons, une augmentation de l'irrégularité. On le voit bien sur nos rivières, d'ailleurs, l'irrégularité telle qu'elle s'exprime depuis 20-25 ans. Si on regarde, j'ai pas évidemment, là devant les yeux, vous n'avez pas devant les yeux les débits de la Leyre ou de la Garonne. On a beaucoup plus d'irrégularités avec des années plus sèches, des années plus humides, etc. Et une moyenne qui baisse. Ça, c'est. Et voilà. Mais même si la moyenne baisse, ça n'empêche pas qu'on ait des pluies abondantes par moment.
D'accord.
Si vous prenez par exemple d'autres régions dans le monde, le Sahel par exemple, c'est pas parce qu'ils ont 6 ou 7 mois sans une seule goutte d'eau qu'il n'y a pas une crue importante au moment de la mousson. Bon, on n'est pas dans un phénomène de mousson pour nous, mais on est sur des phénomènes qui peuvent être un peu plus chaotiques qu'auparavant. Ça, c'est l'élément principal du réchauffement climatique, l'augmentation de l'irrégularité et donc du chaos hydroclimatique.
D'accord. Donc, sur le plus court terme, est-ce qu'on peut dire qu'on n'aura pas trop de problèmes de nappe phréatique cet été?
Alors ça, c'est déjà une bonne chose. Il faut prendre des bonnes choses quand même.
Restons positifs.
Effectivement, on a rechargé. Ça, c'est dans toutes les régions, d'ailleurs, Là, moi, je viens en Espagne aussi, au Portugal, etc. Il y a eu beaucoup de pluie et le côté positif, malgré le problème des inondations, c'est que, a priori, cette année, l'été sera plus facile à gérer que certains autres étés.
Très bien. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Vessy, d'avoir répondu à l'invitation. Au pied levé, encore une fois, je le précise. Et puis, on vous souhaite de profiter de l'Espagne.
Oui, merci beaucoup. Et puis, juste, je précise au passage que sur notre site internet, vous avez quelques documents qui peuvent être téléchargeables, notamment sur un document sur le bouchon vaseux où il y a quelques années, 3-4 ans, là, j'avais fait une synthèse justement sur les questions hydro-sédimentaires de l'estuaire, mais donc qui permettait de voir les évolutions hydrologiques de la Garonne.
Voilà, donc c'est dit, n'hésitez pas à aller sur le site de l'association Terre et Océan. Merci beaucoup, monsieur Vessy. Excellente fin de journée.
Merci à vous.
Excellente fin
Merci
de journée à toutes et à tous.
Environnement, faune, flore, développement durable. Parlons nature.
Voilà, vous venez d'entendre un entretien réalisé par Michaël Ballanger pour RIG dans le cadre de l'émission Parlons Nature, codiffusée par RIG et par O2 Radio. Vous retrouverez ce numéro spécial demain mercredi à 10h30 sur le créneau habituel de l'émission Parlons Nature. On remercie également Éric Vessy, hydrologue, docteur en biogéochimie, directeur de Terre et Océan et médiateur culturel fleuve eau climat. Pour ce qui est du magazine hebdomadaire du mardi 12h30 et comme je vous ai annoncé au sommaire de ce journal, le magazine Les jeunes reporters européens, réalisé en partenariat avec la MEBA, la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, sera à retrouver la semaine prochaine car les ambassadeurs des valeurs éco-citoyennes et européennes sont en vacances bien méritées. Et allez, c'est la fin de ce journal d'information locale et culturelle. Notez que le journal de ce jour sera rediffusé à 15h et à 18h sur le 91.3 FM et à réécouter également sur notre site internet audoradio.fr. Je remercie Chloé à la présentation et Hugo à la rédaction des brèves ainsi que Elliot à la régie technique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur O2 Radio, la radio des Hautes-Garonne, et d'ici là, portez-vous bien.